Chapitre 2. L'arbre de mort. Les chausses et la chemise du jeune soldat étaient trempées de sueur et couvertes de sang séché et de poussière. Le sang coulait de la profonde blessure qu'il avait à la cuisse et des coupures sur sa poitrine et ses épaules. Son visage livide était luisant de transpiration et ses doigts étaient crispés sur le tissu du divan sur lequel il reposait. Et pourtant, les mots qu'il prononçait reflétaient plus une souffrance mentale qu'une douleur physique. « Elle doit être folle !» ne cessait-il de se répéter, comme un homme étourdi par quelque monstrueux et incroyable événement. « C'est comme un cauchemar ! Taramis, aimé de tout Coran, trahissant son peuple pour ce diable de côte ! Oh Ishtar, pourquoi n'ai-je pas été tué ? Plutôt mourir que voir notre reine devenue une traîtresse et une traînée. Reste tranquille, Valérius, implora la jeune fille qui lavait et pansait ses blessures, les mains tremblantes. Oh, s'il te plaît, reste tranquille, mon amour. Tu ne vas réussir qu'à aggraver tes blessures. Je n'ai pas osé appeler une soigneuse. Non, murmura le jeune blessé. Les diables à barbe bleue de Constantius font fouiller le quartier à la recherche de Corani blessée. Ils pendront tout homme dont les blessures montreront qu'il a combattu contre eux. Oh, Taramis, comment as-tu pu trahir le peuple qui te vénérait ? Il se tordait de douleur, pleurant de rage et de honte, et la fille terrifiée le prit dans ses bras, pressant la tête du jeune homme contre son sein, l'implorant de rester calme. « Mieux vaut la mort que la honte ténébreuse qui s'est abattue sur Coran aujourd'hui » grogna-t-il. « As-tu vu cela, Ivga ?»« Non, Valérius. » Ses doigts doux et agiles s'étaient remis au travail, nettoyant doucement et refermant les blessures béantes. « J'ai été éveillé par le bruit des combats dans les rues. J'ai regardé par les croisées et j'ai vu les chémites qui passaient les gens par le fil de l'épée. » Puis je t'ai entendu m'appeler faiblement depuis la porte de l'allée. « J'avais atteint les limites de mes forces, » murmura-t-il. « Je suis tombé dans l'allée et ne pouvais me relever. Je savais qu'il me trouverait vite si je restais là. J'ai tué 3 de ces monstres à barbe bleue par Ishtar. Ils ne se pavaneront plus dans les rues de Coran, par les dieux. Que les démons leur déchirent le cœur en enfer. » La tremblante jeune fille chantonna doucement pour l'apaiser, comme elle l'aurait fait pour un enfant blessé, et referma sa bouche haletante avec ses propres lèvres, douces et fraîches. Mais le feu qui courait dans ses veines ne lui permit pas de rester silencieux. « Je n'étais pas sur les murs lorsque les chémites sont entrés, » éclata-t-il. « Je dormais dans les casernements avec ceux qui n'étaient pas de service. » Juste avant l'aube, notre capitaine est entré et son visage était pâle sous son casque. « Les chémites sont dans la ville, » dit-il. « La reine s'est présentée à la porte sud et a ordonné qu'on les laisse entrer. Elle a fait descendre les hommes des murailles où ils étaient de garde depuis que Constantius avait pénétré dans le royaume. Je n'y comprends rien et personne n'y comprend rien, mais je l'ai entendu donner l'ordre. » Et nous avons obéi, comme nous l'avons toujours fait. On nous a ordonné de nous rassembler sur la place devant le palais, de sortir des casernes, de former les rangs et de nous mettre en marche, en laissant armes et armures où elles étaient. Ishtar seul sait ce que cela voulait dire, mais tels étaient les ordres de la reine. Et quand nous arrivâmes sur la place, les chémites nous attendaient, tournant le dos au palais, 10 000 de ces diables à barbe bleue, armés de pied en cap. Les habitants montraient leur tête derrière chaque fenêtre et chaque porte donnant sur la place. Les rues qui y menaient étaient noires de citadins perplexes. Taramis se tenait sur les marches du palais, avec seulement Constantius à ses côtés, qui se lissait les moustaches comme un grand chat tout maigre qui vient juste de manger un moineau. Mais 50 archers chémites étaient alignés derrière eux. C'est à cet endroit qu'auraient dû se tenir les gardes de la reine. Mais on les repoussait au pied de l'escalier du palais. Ils étaient tout aussi abasourdis que nous. Toutefois, ils étaient venus armés et en tenue de combat, en dépit des ordres de leur reine. Taramis alors s'est adressé à nous et nous dit avoir reconsidéré l'offre que lui avait faite Constantius. Et pourtant, pas plus tard qu'hier, elle la lui avait jetée au visage devant toute la cour, et qu'elle avait décidé de faire de lui son royal époux. Elle n'expliqua pas pourquoi elle avait si traîtreusement fait pénétrer les Chémites dans la ville. Mais elle nous dit que, puisque Constantius commandait un corps de combattants professionnels, l'armée de Coran n'était plus nécessaire et qu'en conséquence, elle était dissoute. Elle nous ordonna de regagner nos demeures dans le calme. Eh bien, l'obéissance à notre reine est comme une seconde nature pour nous. Nous étions bouche bée et ne trouvions rien à lui répondre. Nous avons rompu les rangs avant de savoir ce que nous faisions, en proie à la plus grande confusion. Mais quand on ordonna à la garde du palais de rendre les armes et de se disperser de la même façon, le capitaine des gardes, Conan, intervint. Les hommes disaient qu'il n'était pas de service la nuit précédente et qu'il était ivre, mais il était alors bien réveillé. Il hurla aux gardes de rester où ils étaient jusqu'à ce qu'ils reçoivent un ordre de lui, et telle est son emprise sur ces hommes qui lui ont obéi en dépit des ordres de la reine. Il monta les marches du palais et lança un regard furieux à Taramis, puis il rugit « Ce n'est pas la reine, ce n'est pas Taramis, c'est quelque diable qui a pris son apparence !» Alors ce fut l'enfer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je crois qu'un Chémite a frappé Conan et que Conan l'a tué. L'instant d'après, la place était un champ de bataille. Les Chémites sont tombés sur les gardes et les lances et leurs flèches ont abattu beaucoup de soldats qui s'étaient déjà dispersés. Certains d'entre nous ont attrapé les armes qu'ils ont trouvées et sont retournés se battre. Nous ne savions même pas pourquoi nous nous battions. Mais en tout cas, nous nous battions contre Constantius et ses diables, pas contre Taramis, je le jure. Constantius criait que les traîtres devaient être abattus. Nous étions des traîtres. Sa voix était secouée par le désespoir et la confusion. La jeune fille lui murmurait des paroles de consolation. Elle ne comprenait pas tout, mais elle ressentait par compassion la souffrance de celui qu'elle aimait. Les gens ne savaient quelle partie prendre. Tout n'était que confusion et perplexité. Nous qui nous battions n'avions aucune chance, car nous n'étions pas en formation, n'avions aucune armure et seulement de pauvres armes. Les gardes, eux, étaient en tenue de combat et disposés en carré, mais ils n'étaient que 500. Ils en emportèrent plus d'un avec eux avant d'être abattus, mais une telle bataille ne pouvait avoir qu'une seule issue. Et tandis que son peuple était massacré devant elle, Taramis se tenait en haut des marches du palais, le bras de Constantius passé autour de sa taille, et elle riait, belle comme un démon sans pitié. Par les dieux, tout cela est folie, folie! Je n'ai jamais vu un homme combattre comme Conan a combattu. Il se plaça dos au mur de la cour, et avant qu'il puisse le maîtriser, des cadavres s'entassaient autour de lui à la hauteur de ses cuisses. Mais ils finirent par le dominer à 100 contre 1. Quand je le vis tomber, je m'enfuis. J'avais l'impression que le monde s'écroulait autour de moi. J'entendis Constantius ordonner à ses chiens de prendre le capitaine vivant, et il caressait sa moustache avec ce détestable sourire sur ses lèvres. Ce sourire était sur les lèvres de Constantius à ce moment précis. Il était à cheval au milieu d'un groupe de ses hommes, de solides chémites à la sombre barbe bleutée et au nez crochu. Leurs casques pointus et les mailles d'argent de leurs corselets reflétaient les rayons du soleil couchant. À 1 mile de là, les murailles et les tours de Khoran se dressaient fièrement dans la prairie. Sur le bas-côté de la route, une lourde croix avait été plantée. Et sur cet arbre sinistre, un homme était attaché, les mains et les pieds cloués par des pointes de fer. Vêtu seulement d'un pagne, l'homme avait la stature d'un géant, et ses muscles saillaient comme des cordes épaisses sur ses membres et sur son corps, qui était depuis longtemps bruni par le soleil. La souffrance avait perlé de sueur son visage et sa poitrine puissante. Mais sous la crinière brune et emmêlée qui tombait sur son front bas et large, ses yeux brillaient d'un feu invincible. Le sang coulait doucement des blessures à ses mains et à ses pieds. Constantius le salua d'un ton moqueur. « Je suis désolé, capitaine, dit-il, de ne pas pouvoir rester pour rendre plus facile tes dernières heures. » Mais j'ai des devoirs à accomplir dans cette cité là-bas. Et je ne dois pas faire attendre notre délicieuse reine. » Il rit doucement. « Alors je te laisse à tes propres affaires et à ses beautés. » Il montra du doigt les ombres noires qui allaient et venaient haut dans le ciel. « Sans eux, j'imagine qu'une brute puissante comme toi pourrait survivre sur la croix pendant des jours. » « N'espère pas que tu pourras être sauvé parce que je te laisse sans garde. J'ai fait proclamer que quiconque viendra ôter de la croix ton corps, vivant ou mort, sera écorché vivant en place publique, avec tous les membres de sa famille. Mon autorité est tellement bien établie en Khoran que je ne laisse pas de garde, parce que les vautours n'approcheront pas tant que quelqu'un restera près de toi, et que je ne veux pas qu'ils se sentent le moins du monde gênés. » C'est aussi pour cette raison que je t'ai emmené aussi loin de la ville. Ces vautours du désert n'approchent pas plus près de la muraille. Et ainsi donc, brave capitaine, adieu. Je penserai à toi quand, dans 1 heure, Taramis sera dans mes bras. » Le sang jaillit de nouveau des paumes transpercées, tandis que la victime serrait convulsivement ses poings pareils à des maillets sur les pointes de fer. Les muscles se tendirent sur les bras massifs, et Conan pencha sa tête en avant et cracha sauvagement au visage de Constantius. Le voïvode rit froidement, essuya la salive de son hausse-col et fit faire volte-face à son cheval. « Souviens-toi de moi lorsque les vautours dévoreront ta chair vivante » cria-t-il d'un ton moqueur. « Ces charognards du désert sont particulièrement voraces. » J'ai déjà vu un homme rester sur la croix pendant des heures, sans yeux, sans oreilles et sans cuir chevelu, avant que leurs becs acérés se soient frayés un chemin jusqu'à ses organes vitaux. Sans un regard en arrière, il s'élança vers la cité, droit sur son cheval dans son armure brillante, tandis que ses impassibles soldats barbus couraient à ses côtés. Un léger nuage de poussière marquaient leur passage sur le chemin. L'homme sur la croix était la seule vie consciente dans le paysage qui semblait désert et désolé, tandis que la nuit tombait. Khoran, à moins d'un mile de là, aurait pu être de l'autre côté du monde et en un autre âge. Secouant la tête pour chasser la sueur de ses yeux, Conan fixait le regard vide ce paysage familier. D'un côté de la ville et au-delà, s'étendaient de fertiles prairies avec du bétail qui paissait au loin, là où champs et vignes se dessinaient sur la plaine. L'horizon, à l'ouest et au nord, était parsemé de villages qui semblaient miniatures à cette distance. Plus près, au sud-est, un éclat argenté révélait le cours d'une rivière, et au-delà de cette rivière, le désert de sable commençait soudainement et s'étendait loin au-delà de l'horizon. Conan fixait, le regard vide, cette étendue déserte qui chatoyait au soleil couchant, comme un faucon pris au piège regardant le ciel. Il frissonna de répulsion quand son regard se posa sur les tours brillantes de Khoran. La cité l'avait trahi, pris au piège de circonstances qui le laissaient pendu à une croix de bois comme un lièvre cloué à un arbre. Une sauvage soif de vengeance chassa ses pensées, de sombres malédictions tombées par intermittence des lèvres de l'homme. Tout son univers se contracta, se centra, s'incorpora aux quatre clous de fer qui le séparaient de la vie et de la liberté. Ses muscles puissants frémirent, se nouant comme des câbles d'acier. La sueur ruisselant de sa peau grise, il chercha à faire levier, à arracher les clous du bois. C'était inutile, ils étaient profondément enfoncés. Alors, il tenta d'arracher ses mains des pointes. Et, quand il finit par abandonner, ce ne fut pas à cause de l'inimaginable douleur qu'il endurait, mais à cause de la futilité de ses efforts. Les têtes des pointes étaient larges et solides. Il ne pouvait les faire passer à travers ses blessures. Pour la première fois de sa vie, un élan de désespoir s'empara du géant. Il était attaché, sans bouger, la tête tombant sur sa poitrine, fermant les yeux, meurtri par les rayons du soleil. Un battement d'ailes lui fit lever les yeux, juste au moment où une ombre ailée masquait le ciel. Un bec acéré lacéra ses yeux, blessa sa joue, et il rejeta la tête sur le côté, fermant involontairement les yeux. Il se mit à crier, un croassement, un hurlement désespéré et menaçant, et les vautours se replièrent, effrayés par ce bruit. Ils reprirent leur cercle patient au-dessus de sa tête. Du sang dégouttait sur la bouche de Conan. Il lécha involontairement ses lèvres et cracha quand il en sentit le goût salé. Il souffrait cruellement de la soif. Il avait bu beaucoup de vin la nuit précédente, mais ses lèvres n'avaient pas touché l'eau depuis cette bataille sur la place à l'aube. Et tuer est un travail qui donne soif. Il contemplait la lointaine rivière comme un homme en enfer contemple les grilles infernales ouvertes. Il pensa à de joyeux ruisseaux aux eaux blanches auxquelles il s'était abreuvé, à des bains dans des eaux couleur de jade. Il se souvint de grands hanaps de bière mousseuse, de vin pétillant avalé goulûment ou répandu sur le sol de la taverne. Il se mordit les lèvres pour éviter de mugir de douleur comme mugirait un animal blessé. Le soleil se coucha, sphère éclatante dans une mer de sang incandescent. Contre le rempart écarlate qui barrait l'horizon, les tours de la cité flottaient, irréelles comme dans un rêve. Le ciel lui-même se teintait de sang dans les brumes de son regard. Il lécha ses lèvres noircies et contempla, les yeux injectés de sang, la rivière lointaine. Elle aussi était pourpre comme le sang, et les ombres qui rampaient depuis l'est semblaient aussi noires que l'ébène. À ses oreilles parvint un bruit d'ailes lourd et étouffé. Levant la tête, il regarda les ombres qui tournoyaient au-dessus de lui avec les yeux ardents d'un loup. Il savait que ses cris ne suffiraient plus à les effrayer. L'un d'eux descendit, encore et toujours. Conan recula sa tête autant qu'il le pouvait, attendant avec une patience redoutable. Le vautour s'approcha d'un rapide battement d'aile. Son bec frappa, éraflant le menton de Conan, tandis que celui-ci rejetait sa tête sur le côté. Alors, avant que l'oiseau pût s'éloigner, Conan lança sa tête en avant d'un mouvement de son cou puissamment musclé, et ses dents se refermèrent comme celles d'un loup sur le cou dénudé du vautour. Aussitôt, celui-ci, battant des ailes, fut pris d'une hystérie furieuse. Ses ailes aveuglaient l'homme, ses serres lacéraient sa poitrine, mais il tint bon, faisant saillir les muscles de ses mâchoires. Et les os du cou du charognard se brisèrent entre ses dents puissantes. Après un battement d'ailes spasmodique, le corps de l'oiseau devint flasque. Conan le lâcha et cracha le sang qu'il avait dans la bouche. Les autres vautours, terrifiés par le sort de leurs compagnons, volaient à tire-d'aile vers un arbre éloigné, où ils se perchèrent comme de noirs démons réunis en conclave. Un féroce sentiment de triomphe s'éveilla dans le cerveau embrumé de Conan. La vie battait, forte et sauvage, dans ses veines. Il pouvait toujours affronter la mort, il était toujours vivant. Chaque sensation de douleur ou même de torture était une négation de la mort. Par Mitra, soit on venait de parler, soit il souffrait d'hallucinations. De toute ma vie, jamais je n'ai vu pareille chose. Secouant la sueur et le sang qui couvraient ses yeux, Conan vit quatre cavaliers devant le soleil couchant qui le regardaient. Trois d'entre eux étaient des hommes maigres vêtus de blanc, des ouaguirs sans aucun doute, des nomades d'au-delà de la rivière. L'autre était vêtu comme eux d'un kalat blanc, et sa tête était couverte d'un tissu qui, ceint au niveau des tempes par un triple bandeau de poils de chameau tressés, lui tombait sur les épaules. Mais il n'était pas un chémite. La nuit n'était pas assez profonde, ni le regard d'aigle de Conan assez voilé pour qu'il ne puisse distinguer les traits de son visage. Il était aussi grand que Conan, bien que ses muscles fussent moins puissants. Ses épaules étaient larges et sa silhouette souple était aussi dure que l'acier. Une courte barbe noire ne parvenait pas complètement à masquer l'agressivité de son menton saillant et ses yeux gris, froids et perçants, brillaient dans l'ombre de son keffieh. Tandis qu'il calmait sa monture d'un geste rapide et sûr, l'homme parla. « Par Mitra, mais je connais cet homme !» Oui, c'était l'accent guttural d'un zouaguir. C'est le Cimérien qui était capitaine de la garde de la reine. « Elle doit se débarrasser de tous ses anciens favoris, » murmura le cavalier. « Qui aurait jamais pensé cela de la reine Taramis ?» J'aurais préféré une guerre longue et sanglante. Cela nous aurait permis à nous autres gens du désert d'espérer quelques pillages. Et il faut que nous venions aussi près des murailles pour trouver cette vieille carne. Il lança un regard à un beau hongre que tenait l'un des nomades, et ce chien mourant. Conan releva sa tête sanglante. Si je pouvais descendre de là, « C'est moi qui ferai de toi un chien mourant, sale bandit zaporoskien !» grinça-t-il entre ses lèvres noircies. « Par Mitra, cette canaille me connaît !» s'exclama l'autre. « Dis-moi, coquin, me connais-tu »« Il n'y en a qu'un comme toi dans les parages !» murmura Conan. « Tu es Holgerd Vladislav, le chef des pillards !»« Eh oui !» Et jadis, j'étais hetman des Kozakis de la rivière Zaposkan, comme tu l'as deviné. Aimerais-tu vivre ? Seul un fou peut poser une telle question, haleta Conan. Je suis un homme dur, dit Holgerd, et c'est la seule qualité que je respecte chez un homme. Je vais voir si tu es un homme, ou seulement un chien, juste fait pour rester là et mourir. « Si nous le détachons, on pourrait nous voir depuis les murs, » objecta un des nomades. Holgerd secoua la tête. « Il fait trop sombre. Tiens, prends cette hache, Djebal, et coupe la croix à sa base. »« Si elle tombe en avant, elle va l'écraser, » objecta Djebal. « Je peux la couper de façon à ce qu'elle tombe en arrière, mais le choc de la chute pourra lui briser le crâne ou lui ouvrir les entrailles. » « S'il est digne de chevaucher à mes côtés, il y survivra, » répondit Holgerd, imperturbable. « Sinon, c'est qu'il ne mérite pas de vivre. Coupe !» Le premier impact de la hache contre le bois et les vibrations qui l'accompagnèrent enfoncèrent dans les pieds et les mains gonflées de Conan des vagues de souffrance. Encore et encore la lame s'abattit et chaque coup se répercutait dans son crâne meurtri, faisant frémir ses nerfs torturés. Mais il serra les dents et resta silencieux. La hache termina de sectionner la croix, qui bascula sur sa base et tomba en arrière. Conan noua tous les muscles de son corps en une masse aussi solide que l'acier et plaqua sa nuque rigide contre le bois. La croix heurta violemment le sol et rebondit légèrement. L'impact déchira ses blessures et l'étourdit un instant. Il lutta contre la vague de ténèbres qui l'envahissait, malade et pris de vertige. Mais il se rendit compte que les muscles de fer qui enveloppaient les parties vitales de son corps l'avaient protégé de toute blessure mortelle. Et il n'avait émis aucun son, alors même que du sang coulait de ses narines et que les muscles de son ventre étaient secoués de spasmes. Avec un grognement approbateur, Djebal se pencha sur lui avec une paire de pinces destinées à arracher les clous des fers des chevaux. Puis il saisit la tête de la pointe qui maintenait la main droite de Conan, meurtrissant la peau pour trouver une prise sur la pointe profondément enfoncée. Les pinces étaient trop petites pour un tel travail. Djebal sua et tira, jura, et se battit avec le métal obstiné, le faisant aller et venir, aussi bien dans la chair enflée que dans le bois. Le sang se mit à couler, dégouttant des doigts du cimérien. Il restait si tranquille qu'on aurait pu le croire mort, sans les mouvements spasmodiques de sa large poitrine. La pointe finit par céder, et Djebal brandit l'objet sanglant avec un grognement de satisfaction. Puis il jeta la pointe au loin et se pencha sur la suivante. L'opération fut répétée, et Djebal tourna ensuite son attention vers les pieds mutilés de Conan. Mais le cimérien, se démenant pour trouver une posture assise, lui arracha la pince des mains et le repoussa violemment. Les mains de Conan étaient tellement enflées qu'elles avaient presque doublé de volume. Ses doigts ressemblaient à des pouces difformes, et le simple fait de fermer la main lui causait une souffrance qui faisait jaillir le sang entre ses dents serrées. Mais, tant bien que mal, agrippant maladroitement les pinces avec ses deux mains, il parvint à arracher d'abord un clou, puis le second. Il n'était pas enfoncé aussi profondément que les précédents. Il se leva avec raideur et se tint droit sur ses pieds meurtris et lacérés, se balançant comme un homme ivre, une sueur glacée coulant de son visage et de son corps. Il fut saisi de crampes et il serrait les mâchoires de crainte de vomir. Holgerd, qui le regardait froidement, lui indiqua du regard le cheval volé. Conan tituba jusqu'à l'animal, et chacun de ses pas était un enfer de douleur qui emplissait sa bouche d'une écume sanglante. Une main hésitante retomba lourdement sur la selle. Un pied sanglant parvint à trouver l'étrier. Serrant les dents, il se lança sur le cheval, et il manqua de s'évanouir à mi-chemin, mais il parvint à se poser sur la monture. Et au même moment, Holgerd frappa violemment le cheval de sa cravache. La bête se mit à ruer et l'homme sur la selle vacilla et tanga comme un sac de sable et faillit tomber. Conan avait saisi les rênes de ses deux mains, les maintenant en se servant de ses pouces comme de pinces. Maladroitement, il utilisa la force de ses muscles pour forcer le cheval à se calmer. Il cria, la mâchoire presque disloquée. L'un des chémites leva sa gourde, interrogeant Holgerd du regard. Celui-ci secoua la tête. « Qu'il attende que nous ayons rejoint le camp ? Il n'est qu'à 10 miles. S'il est capable de vivre dans le désert, il tiendra bien jusque-là sans boire. » Ils chevauchèrent tels des fantômes jusqu'à la rivière. Conan chancelait parmi eux sur sa selle comme un homme ivre, les yeux vitreux et injectés de sang, l'écume séchant sur ses lèvres noircies.